Bien, mesdames, messieurs, bonjour, bon après-midi. Chers collègues, j'aurais pu titrer cet exposé « De la métaphore au modèle optique ». Je ne l'ai pas fait pour ne pas donner l'impression que la philosophie ancienne et médiévale était, à un moment donné de l'histoire de la lumière, passée de l'une à l'autre, de manière tranchée. Cela étant, je voudrais montrer comment, à une période précise, dominée par la réception latine du péripatétisme gréco-arabe, la théorie de la lumière et de la vision s'est articulée grâce à un modèle problématiquement hérité d'Aristote, mais revisité par la philosophie, en liaison avec ce qu'on pourrait appeler l'essor de l'optique. Cette période est celle de la scolastique du XIIIe siècle, marquée à la fois par l'entrée du grand commentaire d'Averroès sur le De Anima d'Aristote et la généralisation des outils conceptuels forgés grâce à la traduction du De Anima d'Avicenne et de l'optique d'Alhazen à laquelle Serge Haroche faisait allusion ce matin. L'association entre lumière, conscience et pensée est pour nous naturelle. Elle est donnée, pour ainsi dire, idiomatiquement dans la langue, y compris la plus familière. La lueur, singulière ou plurielle, est ce par quoi l'on désigne le matin naissant, la conscience qui s'éveille, le crépuscule qui tombe, le regard qui s'anime, la passion qui s'agite, l'intelligence qu'on a ou n'a pas, bref, ce qui pointe à la fois à l'horizon du monde et à celui de nos pensées qui parfois se confondent. J'aimerais montrer que cette association naturelle a une histoire et en poser quelques jalons anciens et médiévaux. Par métaphore optique, on entend généralement la comparaison de l'esprit à un miroir, our glassy essence, notre essence de verre, selon le mot de Shakespeare dans Measure for Measure, the mirror-like intellectual soul of the scholastics, selon la glose de Richard Rorty dans Philosophy and the Mirror of Nature, traduit en français contemporain par l'homme spéculaire. On peut aussi entendre par métaphore optique la métaphore héliotropique de la République de Platon et la caractérisation platonicienne de l'être de l'étang en termes d'eidos ou d'idéa, c'est-à-dire d'aspect sous lequel l'étang se montre comme tel à la lumière et grâce à elle. Caractérisation qui va bien au-delà du platonisme, si l'on admet avec Heidegger que toute métaphysique parle la langue de Platon. Le mot « aspect » traduit l'allemand « aussehen » qui traduit « eidos ». Mais « aspectus », c'est aussi le regard, le coup d'œil et même la tension de l'esprit vers l'objet. Enfin et surtout, c'est un mot technique de l'optique scientifique. L'historien ne doit pas faire un usage métaphorique des métaphores qu'il pense trouver à l'œuvre dans la tradition qu'il étudie. S'il y a au Moyen-Âge un usage métaphorique de l'optique, ce ne peut être que de l'optique, n'est-ce pas, médiévale. Parler aujourd'hui de métaphore optique à propos de textes, de concepts, de thèses ou de problèmes médiévaux ne peut se faire qu'à partir d'une définition précise de l'optique médiévale, d'une détermination de son corpus et d'une délimitation de son domaine. Point capital pour mon propos, l'optique partage alors son champ avec ce qu'on appellerait aujourd'hui la psychologie. C'est un trait de l'épistémée médiévale qui prolonge certains éléments de la pensée antique. Il y a une psychologie de la vision chez Alhazen, fondée sur une complexe théorie des 22 propriétés ou intentions, en latin intentiones, visuelles, impliquant une théorie du jugement et, pour ainsi dire, de la reconnaissance et de la certification des formes, comme il y en a une chez Aristote, Avicenne ou Averroès, philosophe de profession. Elles entrent en résonance chez les scolastiques, se recoupent, interagissent, la psychologie naît ou naîtra en partie de cette rencontre. Pas plus que psychologie, le terme optique naît médiéval. Il n'apparaît qu'en 1572 dans l'édition d'Alhazen, procurée par Friedrich Rissner, Optique Thesaurus. Rissner, salarié de la chaire de mathématiques du Collège Royal en 1576, sans apparemment y avoir laissé beaucoup de traces, pas même une fiche de paye, les traités médiévaux d'optique s'intitulent Perspectiva, De aspectibus ou De visu. Chacun de ces titres renvoie à grands traits à un corpus scientifique différent. Aspectus est le mot utilisé par le traducteur latin inconnu du Kitab al-Manazir, livre de l'optique d'Alhazen, pour mettre l'accent sur sa théorie de la perception visuelle, axée à la fois sur la propagation en ligne directe de la forme de l'objet illuminé jusqu'au cristallin et un jugement nécessaire pour passer de la simple sensation lumineuse à la perception de l'objet. De visu renvoie aux traductions à partir du grec de l'optique d'Euclide et à la terminologie des latins tels que Cicéron concernant les problèmes de la vue et de l'évidence sensible développés par les philosophes stoïciens de l'Antiquité tels que Zénon, Cléante et Chrysippe. Perspectiva est un terme scolastique dû aux gens Peckham, Vitello, Blaise de Parme et autres auteurs traitant à des degrés divers de la vision réfléchie, de la vision en ligne droite tout d'abord évidemment, de la vision réfléchie ou des speculis dans les miroirs, et enfin de la réfraction, ce que au IVe siècle, Chalcidius appelait tuitio, en grec phasis, intuitio pour la vision réfléchie, emphasis, et de tuitio, paraphasis, donc voilà l'objet, ainsi que, second objet, des illusions d'optique, donc décrites par Alhazen dans le De aspectibus. Je viens au premier terme de mon intitulé, lumière, conscience et perception. Ce qu'il s'agit d'entendre, c'est précisément ce que philosophiquement, mais aussi archéologiquement au sens foucaldien du terme, suppose, implique et intime ces trois pris ensemble dans un même schème ou une même structure conceptuelle, de décrire cette dernière comme telle tout en l'inscrivant dans le mouvement d'une tradition et ou transmission historique. La chose tient en un mot, la lumière est manifestation. Et elle se donne plus pleinement à entendre dans une série de synonymes ou de termes corrélés tels que révélation, révélateur, apparition, monstration, dévoilement et donation. La lumière est là pour donner à voir. Elle a la structure triadique du don. Elle est le premier don. Ce don n'est autre que ce qui assure la visibilité du visible. À savoir qu'une chose se montre à quelque autre chose, qu'on appellera éventuellement quelqu'un qui puisse justement percevoir par elle ce qui par elle vient au paraître. La lumière est l'élément de la comparution, le lieu où le perçu et le percevant s'actualisent dans un même acte de perception. C'est cette implication mutuelle du scheinen, briller, et de l'erscheinen, pardon, excusez-moi, apparaître, qu'exprime la notion de phénomène, to phenomenon, dans son rapport à phos, lumière. Comme l'écrit Heidegger dans Sein und Zeit, glosé par Derrida, glosant Aristote. L'expression grecque phenomenon, à laquelle remonte le terme phénomène, dérive du verbe phainestai, qui signifie se montrer. Phenomenon signifie donc ce qui se montre, le manifeste. Phainestai est lui-même une formation moyenne de phaino, mettre au jour, mettre à la lumière. Phaino appartient au radical pha, tout comme phos, la lumière, la clarté, c'est-à-dire ce où quelque chose peut devenir manifeste, visible en lui-même. Les phainomena, phénomènes, sont alors l'ensemble de ce qui est au jour ou peut être porté à la lumière, ce que les Grecs identifiaient parfois simplement avec ta onta, l'étang, ou plus exactement les étangs. Derrida, dans Marche de la philosophie, commente « La lumière, la brillance de l'apparaître qui donne à voir, est la source commune de la fantasia et du phainestai. » Glosant, disais-je, Aristote, de anima, puisque la vue est le sens par excellence, fantasia a tiré son nom de phaos, car sans lumière, il est impossible de voir. En parlant de métaphore optique, je me situe dans la continuité du travail pionnier de Hans Blumenberg, Licht als Metaphor der Wahrheit, publié pour la première fois en 1957, censé inaugurer la discipline nouvelle appelée par la suite métaphorologie. Pour saisir le rapport existant entre vérité et lumière, en deçà des images convenues et des représentations banales de l'illumination et de son rôle dans la connaissance humaine, il faut remonter à ce qui rend possible les divers investissements de la structure triadique de cette manifestation que le dernier Heidegger, celui de la fin de la philosophie et la tâche de la pensée, vise par les termes das Offene, l'ouvert, die Offenheit, l'ouverture, die Lichtung, la clairière, dans le rapport qu'ils entretiennent avec la vérité, aletheia et la présence. Ousia, essence, substance, et parousia, présence proprement dite. La clairière de l'ouvert, que Heidegger appelle aussi das Freie, l'air libre, est l'espace de la manifestation, ce qui rend possible la mise en lumière, d'où procède à la fois ce que l'on nomme conscience et le visible, c'est-à-dire ce qui peut venir au regard et s'exposer dans la dimension de l'évidence ou au contraire se refuser. Evidentia, écrit Heidegger, est le mot par lequel Cicéron traduit, c'est-à-dire transporte dans son monde romain le grec enargeia. Enargeia, où sonne la même origine que dans le latin argentum, signifie ce qui en soi-même et à partir de soi jette une lueur et se met en lumière. Le mot enargeia, que l'on doit peut-être à Platon, vient d'enarges, qui signifie lumineux, empli de lumière, rayonnant. C'est en ce sens qu'il est employé par Homère dans le chant 20 de l'Iliade pour dire le caractère effrayant, visuellement insupportable par excès de lumière, d'une épiphanie divine. Kalepoi de theoi phainestai enargeis. L'apparition des dieux épouvante les hommes, traduit assez platement le conte de Lille. Il est terrible de voir les dieux à découvert, traduit Duga Montbel. Les dieux sont terribles ou difficiles à supporter dans leur apparition, donne Bailly. On dira, si la lumière, das Licht, renvoie à la Lichtung, à quoi renvoie la Lichtung elle-même? Selon Heidegger, à l'aletheia, telle qu'elle intervient dans le poème de Parménide, à savoir non pas tant comme vérité que comme Unverborgenheit, ouvert sans retrait. L'aletheia, l'état de non-retrait, de non-latence, il nous faut les penser comme l'ouvert même de la clairière qui laisse advenir l'être et la pensée dans leur présence l'un à l'autre et l'un pour l'autre. La Lichtung, clairière de l'ouvert, tel est l'asile au sein duquel trouve son site l'accord de l'être et de la pensée, autrement dit de la présence et de son accueil. Chaque terme compte ici. Être, pensée, présence, accueil, autrement dit tout ce qui joue dans la mise en lumière du visible, en quoi s'accomplit l'accès du voyant à la vue. Tout cela, être, pensée, présence, accueil, a pour site originaire la Lichtung. Mais cela, dit Heidegger, n'est pas pensé dans la métaphysique, car, je cite, « l'affaire de la philosophie comme métaphysique est, depuis Aristote, de penser les temps comme tels en mode ontothéologique, c'est-à-dire, en termes médiévaux, comme ens creatum, étant créé, par un dieu lui-même pensé comme créateur, sur un mode qui est celui de la production, Herstellung, de l'effectuation, Verwirklichung, et de l'effectivité, Wirklichkeit. Le propos est sans appel, il est plus nuancé ailleurs, est-il complètement fondé? N'y a-t-il pas dans cette métaphysique dont Heidegger veut s'excepter quelque chose qui réponde ou répondrait métaphysiquement à ce qu'il s'efforce de penser, d'aucuns diraient métaphoriquement, dans l'articulation entre Lichtung et Licht. C'est, si j'ose dire, ce qu'il faut voir. Le discours médiéval sur la lumière n'est pas métaphorique. Ce n'est pas, comme on pourrait le dire dans l'idiome de Derrida, la simple relève métaphysique d'une métaphore originelle usée. La lumière est le présentoir du réel. Elle fait voir, elle rend visible. Mais elle est aussi littéralement l'étoffe du monde. Telle est la thèse fondamentale de ce qu'on appelle métaphysique de la lumière. Il y a plusieurs métaphysiques de la lumière au Moyen Âge. La plus justement célèbre est le fruit d'un événement capital dans l'histoire médiévale, dans l'histoire des relations entre Orient et Occident chrétien, mais aussi dans l'histoire de l'art, de la philosophie, de la théologie et de la mystique. Cet événement est l'arrivée d'un manuscrit grec en l'abbaye de Saint-Denis, manuscrit offert par l'empereur byzantin Michel II le Bègue à Louis le Pieux, manuscrit arrivé la veille du 8 octobre 827, fête du saint, où, dit-on, dès la nuit du 7 au 8, le dit objet opéra pas moins de 19 guérisons miraculeuses. Ce manuscrit, aujourd'hui Parisinus Grecus 437, le premier manuscrit grec entré dans la bibliothèque d'un roi de France, contient les œuvres de Denis l'Aréopagite. C'est plus qu'un livre, c'est une relique qui scelle le transfert de la culture d'Orient en Occident, la Translatio Studii, et confirme l'extravagante identification des deux Denis, le premier évêque d'Athènes et le premier évêque de Paris, à laquelle croyait encore en plein XVe siècle le chancelier Gerson, et à laquelle, en tout cas, on doit au XIIe siècle l'œuvre architecturale de l'abbé Suger de Saint-Denis, mort en 1151, œuvre architecturale qui doit beaucoup à la théologie de la lumière élaborée dans ou à partir du corpus dionysien. Traduite au début des années 830 par Hilduin, abbé de Saint-Denis, puis trois décennies plus tard par Jean Scott Erigène, Eriugena, le natif de l'Eyre, donc par Jean Scott Erigène, l'œuvre de celui que nous appelons aujourd'hui Denis le pseudo-aréopagite, sauf à Athènes, inspire à son traducteur irlandais, Jean Scott, la doctrine des théophanies qui font de l'œuvre de Scott, le Periphuseon ou Division de la nature, le plus remarquable exposé d'une théologie de l'auto-révélation ou plus radicalement de l'auto-création de Dieu dans une création entendue comme théophanie lumineuse. Même si le 23 janvier 1225, une lettre du pape Honorius III enjoint, plusieurs siècles après la mort de Scott, de, je cite, « requérir et de brûler tous les exemplaires du Periphuseon qui se trouvent dans les monastères, il ne faut pas pousser trop loin la thèse de l'auto-création divine. » Reste cependant que, comme l'écrivait Étienne Gilson, l'Érigène soutient que Dieu se crée d'une manière ineffable et secrète en créant la créature, qu'invisible il se rend visible, qu'incompréhensible il se fait compréhensible, que superessentiel au-delà de l'essence et surnaturel au-delà de la nature, il se donne une essence et une nature, que créateur de l'univers, il devient univers créé et que, pour le dire en un mot, celui de production que j'utilisais tout à l'heure, lui qui produit toute chose devient produit en toute chose. D'un mot, théophanie, dont cette page de Hegel, commentée par Derrida, offre à des siècles de distance la version sécularisée. C'est par la lumière, élément neutre et abstrait de l'apparaître, milieu pur de la phénoménalité en général, que la nature se rapporte d'abord à elle-même. La nature, dans la lumière, se manifeste, se voit, se laisse voir et se voit elle-même. Dans cette première articulation réflexive, l'ouverture de l'idéalité est du même coup ouverture de la subjectivité, du rapport à soi de la nature. Citation de Hegel, « La lumière est la première idéalité, la première auto-affirmation de la nature. Dans la lumière, la nature devient pour la première fois subjective. » Après l'entrée du corpus dionysien, l'Occident latin a connu une seconde forme de surexposition à la lumière avec la traduction de la Philosophia Prima et du De Anima d'Avicenne, celle du Liber de Causis, encore appelé Livre du bien pur, adaptation bagdadienne des éléments de théologie de Proclus, mise en circulation dans le monde latin sous le nom d'Aristote, et naturellement l'ensemble des œuvres authentiques du Stagirite dans le domaine de la philosophie naturelle, dont la métaphysique et le De Anima, mais aussi la physique et le De Caelo. Le soudain afflux de ces textes, à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle, ayant coïncidé avec l'essor de l'optique, dû en partie à la traduction d'Alhazen, la lumière a, si j'ose dire, connu alors un véritable âge d'or philosophique. Dans cette constellation, l'interprétation du De Anima d'Aristote est la pièce centrale, autour de laquelle tout s'ordonne. Il y a, dit le chapitre 5 du livre 3, un des textes les plus commentés du Moyen-Âge, deux sortes de causes dans la nature, la cause matérielle et la cause efficiente. L'âme étant une réalité naturelle, on les retrouve toutes deux dans l'âme qui pense, en l'espèce de deux intellects qu'on appelle depuis Alexandre d'Aphrodise intellect matériel, nous ulikos, et intellect agent, nous poietikos. De fait, écrit Aristote, on distingue dans l'âme, d'une part, l'intellect qui est analogue à la matière par le fait qu'il devient tous les intelligibles, le nous ulikos d'Alexandre d'Aphrodise, et d'autre part, l'intellect qui est analogue à la cause efficiente, nous poietikos, parce qu'il les produit tous, ces intelligibles, attendu qu'il est une sorte d'état analogue à la lumière, car en un certain sens, la lumière, elle aussi, convertit les couleurs en puissance, en couleurs, en actes. Ce qui nous intéresse dans ce texte est la comparaison de l'intellect producteur à la lumière et celle de l'intelligible en acte à la couleur en acte. La métaphore optique semble jouer ici à plein. Pourtant, on est au-delà de la métaphore, car lumière, couleur et vision engagent des théories scientifiques précises exposées dans le deuxième livre du De Anima. L'ensemble gravite autour d'une notion sans laquelle il est impossible de comprendre le statut de la lumière chez Aristote et par voie de conséquence dans la scolastique, non plus d'ailleurs que sa théorie de l'intellection. Cette notion est le diaphane. Tout ce qui est visible a en soi la cause de sa visibilité, présente en tout ce qui peut venir au paraître. Cette cause est le diaphane. Le diaphane est une certaine substance ou nature, en et par elle-même invisible, contenue à des degrés divers en tout ce qui est visible, présent à la fois dans l'air, dans l'eau, dans un grand nombre de corps solides, verre, cristaux, pierres précieuses, et finalement dans tous les corps, y compris le corps éternel situé dans la région supérieure de l'univers. On l'a mentionné sous un nom que je crains à nouveau de prononcer, celui d'éther, n'est-ce pas ? Le diaphane est à la théorie aristotélicienne de la manifestation ce que la Lichtung est à la lumière et à la mise en lumière chez Heidegger, une condition de possibilité universelle qui garantit l'unité et la perceptibilité du monde. Chez Aristote, cette condition est physique, c'est-à-dire naturelle, bien que le monde d'en haut et celui d'en bas soient séparés physiquement par la barrière de la corruptibilité, le monde sublunaire étant soumis à la génération et corruption, le monde supralunaire étant incorruptible, il y a entre la sphère élémentale, la sphère des quatre éléments, et le suprême des cieux, une continuité assurée par le diaphane, la visibilité, la capacité de venir au paraître, la manifestabilité. Pour qu'il y ait manifestation, il faut qu'il y ait vision. Et pour qu'il y ait vision, il faut premièrement du visible, deuxièmement, un voyant, et troisièmement, une continuité entre le visible et le voyant, entre la chose vue et l'œil. Le diaphane étant, c'est la définition qu'en donne Aristote, invisible en l'absence d'une couleur étrangère, c'est bel et bien un invisible en soi qui est la condition de visibilité de tout le visible. Ce, parce qu'étant de soi incolore, il peut, actualisé par la lumière qui est sa première couleur, recevoir toutes les couleurs. Il en va de même de l'œil. Le voyant a en soi la cause de sa voyance. Il y a de l'eau dans l'œil, des humeurs aqueuses, donc du diaphane. L'œil et la chose colorée ont la même nature, la diaphanéité. C'est le fondement physique de la théorie synergique de la vision, un des piliers de la théorie aristotélicienne de la perception, donc aussi de l'intellection, selon laquelle la sensation en acte est l'acte commun du sensible et du sentant. Deux formules médiévales résume le propos d'Aristote sur la couleur et la lumière. La première, la lumière est l'acte du diaphane non terminé ou non déterminé. Interminati en latin. Deuxième formule, la couleur est la limite, extremitas, du diaphane, perspicui, terminati, déterminé ou terminé. L'origine de ces formules attesté d'Albert le Grand à Zabarella, qui est mort en 1589, Albert le Grand étant mort en 1280. L'origine de ces formules est, au-delà d'Aristote, De Anima et De Sensu, le commentaire du De Sensu d'Averroès. Le commentaire d'Averroès sur le De Sensu d'Aristote. Dans son De Anima, Albert le Grand fixe la différence entre deux entités. La même, à dire vrai, d'une certaine façon. Lux et lumen. On appelle lux la forme de la lumière dans le luminaire. On appelle lumen celle qui est reçue dans un autre corps illuminé. On pourrait dire que lux, c'est la lumière source et que lumen, c'est la lumière émanée. La distinction entre lux et lumen, augmenté de radius et splendor, est expliqué dans le commentaire des sentences de Thomas d'Aquin en ces termes. Lux désigne la lumière considérée dans la cause de l'illumination, autrement dit le corps lumineux en acte, qui illumine tous les autres, le soleil. Lumen désigne la lumière reçue dans le corps transparent illuminé. Radius, le rayon, est l'illumination en ligne directe. Splendor est la réflexion du rayon par une surface polie comme un miroir, tel que l'eau ou l'argent, les nargès de Heidegger. L'analyse du lexique ne nous dit pas cependant ce qu'est la lumière, pour un Albert le Grand ou un Thomas d'Aquin. Pour le savoir, il faut identifier les théories discutées au XIIIe siècle. L'éventail est bien défini. On retrouve les mêmes théories dans les commentaires du De Anima que dans les commentaires des Sentences, le grand manuel de théologie scolastique, œuvre de philosophie dans un cas, donc, et de théologie dans l'autre, ce qui confirme le statut éminent de la lumière dans l'épistémée médiévale à la croisée des savoirs. Albert le Grand présente cinq théories de la lumière dans le De Anima, livre 2, traité 3, chapitre 9, qui font de la lumière un corps, ou bien une forme substantielle, ou bien une substance spirituelle, entendant par là quelque chose d'intermédiaire entre le corporel et l'incorporel. Autre théorie, la lumière est une manifestation de la couleur, c'est ainsi qu'on traduit en général evidentia coloris, une manifestation de la couleur, à quoi s'ajoute, cinquième point, une théorie apparue de notre temps, dit Albert, qui fait de la lumière un corps simple distendu jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire jusqu'à l'extrémité du monde, ou contracté jusqu'à l'indivisible. C'est la même entité qui, si vous la donnez, vous la donnez sous la forme d'un point, instantanément se fait sphère, hein, sphère lumineuse, jusqu'à ce qu'elle atteigne sa limite extrême. On pourrait revenir éventuellement sur cette question épineuse. Thomas d'Aquin présente, lui, 5 théories dans son commentaire des sentences et 4 dans son commentaire du De Anima. La lumière est un corps, elle est un accident, elle est une manifestation de la couleur, elle est une intensio, c'est un terme curieux, qualité active du soleil, enfin. La dernière étant celle à laquelle il se rallie. Je m'aperçois que je suis allé trop loin, ou bien j'ai inversé, mais voilà. Dans la Sententia de Anima, donc, il y avait 4 théories. Dans le commentaire des sentences, il en avait 5. À nouveau, corps, nature spirituelle, manifestation de la couleur, forme substantielle du soleil. On pourrait comparer les théories d'Albert et de Thomas d'Aquin. Je dirais, pour aller à l'essentiel, que la position d'Albert le Grand est que la lumière est une intention, en latin intentio, ce qui est la traduction d'un terme arabe, mahana, qu'on trouve aussi bien chez Halazen, traité d'optique, que chez Avicenne ou Averroès, traité de psychologie. Une intention ayant un être spirituel dans le milieu, comme la couleur a un être intentionnel dans le milieu. Formule qui est directement empruntée à Averroès, disant très exactement ceci, la couleur a un double être, à savoir un être dans le corps coloré, et c'est ce qu'on appelle un être corporel, et un être dans le diaphane, et c'est ce qu'on appelle un être spirituel ou intentionnel. Deuxième point de la théorie d'Albert, la lux est source de vie et de chaleur. Et troisième point, le lumen est l'hypostase, c'est-à-dire le sujet, le porteur, le substrat des couleurs. Les points de vue des deux dominicains, Thomas et Albert, sont en quelque sorte croisés. L'un juge probable ce que l'autre juge vrai, et réciproquement. Puisque Thomas d'Aquin considère la théorie intentionnelle d'Albert, qu'il juge vrai, mais seulement très probable, sans y souscrire, et cela pour des raisons physiques. Parce que, dit-il, la chaleur des rayons du soleil produit des changements réels et qui n'ont pas lieu seulement selon une opération de l'œil, une opération de l'âme, la vision, ou, par exemple, une opération de l'âme auditive, l'audition. La lumière fait quelque chose de réel dans le réel sans la collaboration de l'âme. Bon, donc les deux points de vue des dominicains ne sont pas les mêmes. Deux remarques. La formule hypostase des couleurs, ce n'est pas une phrase d'Aristote, elle est tirée des Questiones Nicolai Peripatetici, les questions de Nicolas le Péripatéticien, recueil pseudonyme de textes scientifiques et alchimiques qui circulaient au début du XIIIe siècle. Deuxième remarque, plus importante probablement, spirituel ne signifie pas psychique. Le terme spirituel désigne un type de changement particulier, déjà reconnu par Aristote. Outre le changement physique proprement dit, à la fois formel et matériel, Aristote admet en effet un type de changement qualifié par les médiévaux de spirituel, immutatio spiritualis, qui est physique mais formel sans être matériel. Cette thèse est reprise par Thomas d'Aquin dans la Somme de théologie, qui oppose clairement l'immutation physique qui caractérise la réception de la forme de l'agent dans le patient selon un être matériel et l'immutation spirituelle où la réception se fait selon l'être dit spirituel, à savoir sans la matière. Et il précise que c'est très précisément le cas de la vue. Il y a donc deux sortes de changements dans les corps, les uns physiques, matériels, les autres spirituels, c'est-à-dire intentionnels. La forme de la couleur n'est pas reçue dans l'œil sur le mode d'être qu'elle a dans l'objet coloré. C'est pourquoi l'œil ne change pas de couleur en fonction de ce qu'il voit. C'est cette capacité d'être affecté sans être modifié physiquement, autrement dit matériellement, qui assure la supériorité de la vue sur les autres sens. Le mot « intentio » étant employé à la fois d'une part dans les traductions des œuvres d'optique d'Alhazen pour désigner la forme affectant l'appareil de la vision, son mode d'être dans le milieu physique transmetteur, ou les fameuses 22 propriétés visibles évoquées tout à l'heure, et, d'autre part, dans les traductions des textes philosophiques péripatéticiens pour désigner notamment le contenu intelligible rendu présent par la sensation via une image ou un fantasme, une continuité remarquable s'établit entre optique et psychologie dans le vocabulaire comme dans les problématiques. On utilise les mêmes mots et les mêmes notions pour traiter de la perception visuelle d'un point de vue psycho-physiologique et de la production des concepts abstraits d'un point de vue que l'on dirait psychologique et noétique. Ce croisement des disciplines, soutenu par la position dominante de l'optique dans le champ épistémologique du Moyen-Âge central et celle de la vision dans la psychologie et la métaphysique antique et médiévale, se reflète dans l'interprétation du chapitre 5 du livre 3 du De Anima d'Aristote, qui concentre toutes les problématiques communes à la psychologie naissante et à l'optique. J'y viens avant de conclure. Aristote aurait pu dire « il y a de l'intelligible ». Comme il dit « esti de ti diaphanes, il y a du diaphane ». Il y a de l'intelligible, soit, mais où ? Où cela ? Précisément pas dans un monde intelligible, coupé du monde sensible, comme le monde des formes ou idées de Platon, mais bien au cœur du sensible, dans le sensible, non pas, certes, en acte, mais en puissance. C'est ce que dit Aristote, c'est ce qui l'oppose à Platon, et, comme le soulignera Averroès, c'est ce qui rend nécessaire l'existence d'un intellect producteur, je cite, « dans un état comparable à la lumière ». En effet, c'est la lumière de l'intellect dit « poétique » ou « agent » qui, dans le processus de l'abstraction, dégage en l'illuminant la forme intelligible du fantasme ou image que lui présente la faculté cogitative. C'est la lumière qui tire, en l'éclairant, l'intention intelligible de l'intention imaginaire elle-même issue de la sensation. En l'illuminant, en l'éclairant, qu'est-ce à dire ? Métaphoriquement, on peut comprendre de deux façons ce processus. Soit la lumière fait briller l'intelligible enveloppé dans le fantasme, au point que sa brillance, son éclat, éclipse toute autre donnée. Soit elle dissipe la nuée qui le nimbe et laisse apparaître la forme cachée. Mais je l'ai dit, à partir du moment où optique et psychologie ont croisé leur lexique et leur concept, la métaphore optique cède la place à la science. Point ici de métaphore. C'est la théorie de l'extraction des couleurs qui sert de modèle à la production de l'intelligible. Les deux intellects, le poétique et le matériel, sont assimilés l'un à la lumière, l'autre au diaphane. Les formes matérielles, autrement dit les intentions intelligibles tirées de la matière à travers le fantasme, étant assimilées aux couleurs et rapportées à l'intellect matériel comme la couleur est rapportée au diaphane. Le parallèle est clairement tracé dans le troisième livre, commentaire 5 d'Averroès sur le De Anima d'Aristote. Donc vous avez ici l'essentiel dans ma traduction. Le rapport de l'intellect agent à l'intellect matériel est comme le rapport de la lumière au diaphane, et le rapport des formes matérielles à cet intellect est comme celui de la couleur au diaphane. De même, en effet, que la lumière est la perfection du diaphane, de même l'intellect agent est la perfection du matériel. Et de même que le diaphane n'est pas mu par la couleur, ni ne reçoit celle-ci, sauf quand il luit, de même cet intellect ne reçoit pas, autrement dit l'intellect matériel, ne reçoit pas les intelligibles qui sont ici-bas, sinon en tant qu'il est parfait par cet intellect, l'intellect agent, et illuminé par lui. Et de même que la lumière fait passer la couleur de la puissance à l'acte pour qu'elle puisse mettre en mouvement le diaphane, de même l'intellect agent fait passer à l'acte les intentions intelligibles en puissance pour que l'intellect matériel les reçoivent. Il ne manque qu'un exemple pour illustrer ce modèle. Albert le Grand, dans son De Anima, pourrait nous le fournir. Ce serait l'exemple du vitrail, cher à l'abbé Suger de Saint-Denis. Quand un rayon traverse un verre coloré d'une couleur quelconque, cette couleur passe dans l'air et dans le mur opposé, ou le sol, pourrait-on dire, dans une autre situation. Le verre, si nous adoptions ce modèle, cette métaphore, le verre tiendrait le rôle du fantasme, le mur ou le sol, celui de l'intellect. Une lumière passe à travers le fantasme et projette le contenu intelligible sur un récepteur qui est le sol. Malheureusement, Albert Le Grand n'utilise pas cet exemple dans ce contexte. N'importe. Il y a un modèle optique plutôt qu'une métaphore optique au principe de la noétique qui, au XIIIe siècle, répond au problème posé en commençant. Trouver ce qui correspond à la distinction entre Lichtung et Licht dans son rapport avec lumière, conscience et perception, dans ce que Heidegger appelle la tradition métaphysique. Cela, c'est le diaphane et la position de l'intellect matériel comme diaphane de la pensée. Un intellect transpersonnel, séparé du corps, que l'on a comparé au sujet transcendantal, mais qu'il faut prendre à la lettre comme ce qui accueille et reçoit la lumière de l'intellect agent, un intellect dit matériel ou possible, actualisé par la lumière pour pouvoir recevoir l'intelligible, lumière qui est aussi ce qui extrait l'intelligible qu'il reçoit. On dira comment cet intellect se connaît-il ? Il se connaît, répond Thomas d'Aquin, par réflexion sur son acte de connaissance directe tourné pré-réflexivement vers l'objet, en quoi l'on retrouve adapté la distinction entre vision en ligne droite, vision réfléchie ou comme dans un miroir, et réfraction. Il faut prendre la réflexion à la lettre. La question est, où est l'homme dans cette réflexion, si l'intellect, comme le soutient Averroès, est séparé et unique pour l'espèce humaine, s'il est forme assistante pour l'homme et non pas forme inhérente. La position qu'Averroès réserve à l'homme, celle de fournisseur d'images, en fait une partie virtuelle d'un processus noétique qui s'accomplit d'une certaine manière en dehors de lui, mais aussi pour lui et jusqu'à un certain point par lui. Y a-t-il meilleure réponse ? Thomas d'Aquin l'affirme, les thomistes l'affirment aussi. Je ne prétends pas arbitrer ici, j'aimerais seulement vous avoir convaincu de l'extrême cohérence, non pas de la métaphore, mais du modèle optique médiéval. Je conclus. Notre essence n'est pas de verre. L'âme intellectuelle n'est pas qu'un miroir. C'est certes, comme l'œil, selon Albert Legrand, l'expression est de lui, un miroir animé, un réflecteur vivant. Mais c'est aussi et d'abord la source d'un regard. Comme le rappelle Rudolf Bultmann, on trouve dans la littérature grecque des pages où la lumière est appelée œil et où l'œil est appelé lumière. Euclide et Ptolémée soutenaient une théorie de la vision fondée sur l'extramission de rayons lumineux par l'œil. Serge Haroche y faisait allusion ce matin. Aristote et Halazen tenaient pour l'intromission, autrement dit pour la réception des choses en nous à travers leurs intentions. N'importe. Si, cédant aux injonctions conjointes d'Oscar Wilde et de Jean Cocteau, les miroirs se mettaient à réfléchir, il ne se passerait rien en eux qui ne se passe déjà chez l'homme. Mais il leur manquerait toujours ce que l'homme a en propre, la capacité de regarder où il veut, celle de fermer les yeux pour mieux y voir, celle de briser ou de jeter le miroir, celle enfin de parler ou de se taire, ce que je fais à présent.